Bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Philippe Royer. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Royer, vous aimez particulièrement la Normandie et pour cause, vous y êtes né?
Oui, je suis né dans le département de l'Orne, près d'Argentran. J'ai eu de la chance d'être marié à l'abbaye aux Dames à Caen, donc à un haut lieu. Puis la Normandie, c'est à la fois toute la richesse de ses villes et la richesse de ses paysages. Donc à la fois les paysages de bocage, mais le pays d'Auge, le Bessin, le Cotentin, qui est des lieux charmants, mais également toute la partie de la Seine-Maritime et de l'Or. Donc que des belles choses en Normandie.
Quelques mots sur votre parcours professionnel.
Alors, j'ai de formation agricole, j'ai dirigé plusieurs entreprises dans le secteur agricole, donc je suis plutôt un entrepreneur. J'ai dirigé pendant 24 ans un groupe qui est passé d'une dimension départementale basée en Mayenne, qui est devenu un groupe national, dans l'accompagnement d'une agriculture du vivant et de la modernité. C'est-à-dire qu'une agriculture dans laquelle on s'est attaché à réconcilier, par exemple, l'agriculture bas carbone, mais également avec la modernité de l'objet connecté. Cet objet connecté qui, par exemple, permet de monitorer des animaux et d'éviter par exemple beaucoup d'utilisation d'antibiotiques. On est vraiment dans quelque chose qui se projette dans l'avenir.
Alors j'imagine que vous êtes sensible à l'écriture du pape avec cette encyclique Laudato Si.
Très marqué par Laudato Si, qui est un texte de référence pour moi, à travers ce cri des pauvres et ce cri de la planète. Donc il y a bien sûr ce cri de la planète qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que j'ai testé avec joie que j'ai fait beaucoup de travail sur les questions de bas carbone, sur les questions d'autonomie protéique de la France et de l'Europe pour éviter la déforestation brésilienne, amazonienne. Mais il y a également dans le message du pape François ce cri des pauvres. Et j'ai vraiment la conviction, et c'est ce qui quelque part a animé mon livre, c'est que face à ces défis environnementaux, face à ces défis de fracture sociale, il y avait un autre défi qu'il fallait rajouter, qui est le défi entrepreneurial. Et c'est peut-être celui-ci qui va permettre de réconcilier l'ensemble.
Alors, l'engagement, nous allons bien sûr en parler avec le titre de ce livre, « S'engager pour le bien commun ». Quelle distinction faites-vous entre, quand on veut s'engager, on cherche aussi à réussir sa vie. Qu'est-ce que vous faites comme distinction entre réussir sa vie et réussir dans la vie ?
Alors, réussir sa vie ou réussir dans la vie est une bonne question. Réussir sa vie, c'est simplement avoir déployé les talents qu'on avait reçus et peut-être de pouvoir se regarder en disant « j'ai accompli ce qui devait être accompli ». Et après, le terme « s'engager » est une bonne question dans un monde qui peut-être pourrait donner envie d'être dans le « tout est foutu ». Et donc aujourd'hui, quand on pose le diagnostic réel du monde, même si la France a de la chance d'avoir encore beaucoup d'atouts, il y a globalement une mutation qui va amener des chaos et des émergences. Elle part un petit peu avant de la chute du mur de Berlin. Un seul modèle qui était le modèle libéral, qui est devenu modèle ultra-libéral, qui a eu plein de points positifs. Enfin, moi, je suis pour l'économie de marché, globalement. Ce modèle-là, il a enchaîné une succession de crises financières. On pourrait même prendre la crise terroriste avec la chute des tours à New York, qui était vraiment le fait qu'il y avait des gens qui disent ça ne se passera pas comme ça et on n'est pas pour ce système de manière hyper violente et bien sûr condamnable, mais quelque part, on sent cette tension du monde. Cette tension s'est amplifiée avec la crise écologique, pandémique, et on n'est pas loin de la crise politique et financière.
Et en dressant un tel tableau ce matin entre 8h30 et 9h sur Tendance Ouest pour le magazine Tendance Confidence, Philippe Royer, vous pourriez apparaître comme un peu pessimiste en dressant un tel tableau, alors que nous parlons avec vous de votre livre sur le bien commun.
Non, il faut placer le juste diagnostic. Quand vous avez environ entre 20 à 30 milliardaires qui ont autant d'argent que 50% de la partie de la population la plus pauvre mondiale, on ne peut pas se dire que le monde va bien. Le monde va bien pour ceux qui sont du bon côté. Il ne va pas bien pour tout le monde et la fracture sociale est grandissante.
Est-ce que nous pourrions associer à cette litanie une crise de la confiance qui va donc avec peut-être de pair avec une crise de l'engagement ?
Oui, il y a une réelle crise de la confiance, mais si j'ai écrit ce livre, c'est justement parce que le risque majeur de la crise de la confiance, c'est de tomber dans la fatalité et dans l'extrémisme et dans le tout est foutu. Ce qui nous guette quand on voit aujourd'hui la situation dans laquelle on est et qu'aujourd'hui on applique les mêmes recettes qu'avant et on est surpris que ça marche pas mieux. Et donc nous, on se dit, bien sûr qu'on peut pas rester comme on est. Par contre, on a une responsabilité individuellement. Et là, j'invite chaque auditeur à se poser cette question-là. On veut tous que le monde change, mais on aimerait que ce soit les autres qui changent le monde. Hein. Et si nous, on pouvait ne rien changer, on trouverait que ça serait pas plus mal. Or, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle. Le monde ne changera que si on change là où on est. Et tout le monde a un espace, d'entreprendre là où il est. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que face aux défis environnementaux et aux défis de la fracture sociale, c'est le défi entrepreneurial. Alors, comme je parlais de ce défi entrepreneurial qui peut constituer cette société du bien commun, c'est un défi dans lequel chacun reprend conscience qu'il a vocation à entreprendre sa vie.
Il semble que nous revenons à ce que nous disions précédemment avec vous, Philippe Royer, sur réussir sa vie ou réussir dans la vie. L'important aussi, c'est de s'y épanouir dans cette vie.
J'ai croisé beaucoup de monde dans l'associatif, dans l'entrepreneuriat et autres. J'ai jamais rencontré une personne nulle. Par contre, il m'est arrivé régulièrement de rencontrer des gens pas au bon endroit, et des gens qui étaient tétanisés par ce manque de confiance et qui n'osaient pas entreprendre leur vie. Et peut-être pour être chauffeur, infirmière, médecin, peu importe le métier, la personne humaine est devenue individu. Et cet individu, il est même devenu individualiste, il est devenu même presque un consommateur zombie, drogué à la société de consommation. Il part de plaisir en plaisir, peut-être de jouissance en jouissance. Le problème, c'est que la somme de ces petits plaisirs ne fait pas le bonheur.
Et comme dit la chanson, il est où le bonheur ? Quelle direction prendre pour le trouver ?
Le modèle qui est à changer, c'est que comme la somme des petits plaisirs ne fait pas le bonheur, comme on a vu que la somme des individualismes ne faisait pas une société du bien commun parce que des gens s'enrichissent énormément et d'autres n'ont pas suffisamment, il faut bien rééquilibrer cette société-là. Et cette société, pour moi, elle passe par l'entreprendre, elle passe par cette conscience qu'on est co-créateur de la suite de l'histoire et qu'on a une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Moi qui ai 56 ans, je peux pas me dire mais finalement tout est foutu, je m'en fous pour mes enfants. Non, j'ai une responsabilité pour mes enfants, mes futurs petits-enfants, et j'ai une responsabilité simplement dans le monde de cette responsabilité du commun. Et l'enjeu, c'est donc cette société du bien commun, c'est de sortir du principe que la somme des individualistes fera le bien commun. Et quand on prend une décision, c'est comment je prends en compte le fait de m'y épanouir, ce qui est normal, mais le fait que chaque personne trouve sa place dans la société et que, de manière commune, on trouve un intérêt à être ensemble.
Royer, vous êtes l'auteur aux éditions Emmanuel de ce livre qui a comme titre « S'engager pour le bien commun » avec comme sous-titre « Un dirigeant partage son espérance ». Vous avez été chef d'entreprise. Est-ce que ça fait bon ménage, être chrétien et chef d'entreprise ?
Alors, on pourrait là aussi tendance à dire que c'est peut-être une position schizophrénique et pour avoir été à la tête du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ce qui a été ma force, ça a été mon unité de vie. C'est-à-dire que de la même manière que je disais qu'il fallait quitter le fait d'être un individu consommateur pour redevenir une personne, moi je dis il faut redevenir une et une seule personne. On voudrait être telle personne quand on est le père de famille ou le mari ou l'époux, le conjoint. On voudrait être une autre personne quand on est dans le travail parce qu'on serait soumis à une surperformance qui nous oblige à prendre des décisions qui ne sont pas des bonnes décisions pour la société. Puis encore une autre personne, peut-être sur le plan spirituel. Alors que moi, mon leitmotiv depuis une vingtaine d'années, c'est de dire mais comment je peux être cette même et unique personne ? Et vous savez, quand on a cet alignement-là, on a une grande paix, une grande joie intérieure.
Mais qu'est-ce qui peut unifier cette personne pour que ça se passe bien ?
Je vais donner des choses concrètes sur l'entreprise que j'ai dirigée le plus longtemps. L'agriculture est un secteur compliqué. C'est un des plus beaux métiers du monde dans lequel les gens gagnent parfois un SMIC, voire un ou deux SMIC, mais avec un investissement qui est très important et certains ont même du mal à gagner leur vie.
Et surtout en Normandie, on connaît bien.
Alors donc on connaît bien Normandie et cette situation agricole. Donc il faut faire quelque chose pour que les agriculteurs gagnent mieux leur vie. Et pour ça, il faut pas avoir peur de s'emparer de l'écologie. Les agriculteurs, à un moment, ont rejeté l'écologie parce qu'il y a un parti politique qui les a considérés comme des pollueurs. Donc ils se sont vus en agressés.
Et quelle est donc votre vision de l'écologie ?
L'écologie, pour moi, elle appartient. Chaque citoyen doit s'emparer de l'écologie. Et donc, j'ai mené des projets, par exemple, avec des groupes laitiers que je cite dans le livre, dans lequel on a, en mettant une agriculture vraiment vertueuse sur la production de carbone, sur la maîtrise du carbone, des impacts carbone et sur l'autonomie protéique, le pâturage, on a développé des augmentations de rémunération de 20 à 30%. Donc moi, je dis aux gens, dès qu'on réentreprend sa vie, dès qu'on transforme les menaces en opportunités, on recrée une fécondité. Et il n'y a pas de fatalité à ça. Et parfois, les médias nous bombardent de choses qui nous font croire que c'est plus possible. Alors, bien sûr, pas sur cette radio, justement. Et sur cette radio, il faut qu'on témoigne de cet optimisme. Martin Luther King disait, vous savez, il ne faut pas perdre d'énergie, pas la moindre énergie, face à ses ennemis. Il faut passer toute son énergie à réveiller l'indifférence des bons. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent le bien commun, mais qui ne savent pas comment faire, ils ne savent pas par où commencer. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
Mais comment parler du bien commun dans une société individualiste où chacun pense à lui, pense à sa personne, ce qui n'est pas mal. Mais comment ces différents îlots peuvent composer un archipel ?
Et je pense qu'il faut le vivre et il faut en rayonner. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Parce que finalement, si on le vit et qu'on en rayonne et qu'on ne le diffuse pas aux autres, on fait croire que tout est foutu. Et donc moi, je dis, là où je suis, au moins, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Et je dis à chacun, si on s'occupait chacun d'un pauvre, c'est quelque part quelque chose qui pourrait presque être surgérable, eh bien, on a réglé des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut retrouver le fait qu'à la fin de sa vie, qu'est-ce qui va être le plus important ? C'est la part de gratuité. On a reçu la vie gratuitement. On a reçu l'amour de nos parents et de nos proches gratuitement. L'amitié est gratuite. Et je dis, mais aux gens, n'attendez pas la fin de votre vie pour vous poser la question du sens de votre vie. Et donc, il faut réveiller cette soif d'émerveillement qui est en chacun. Il faut réveiller le fait d'admirer. Et la Normandie est riche de cette diversité. Moi, je suis tout proche de la vallée de l'Orne, qui est également magnifique. Et donc, on a la chance de ces paysages-là. On a la chance d'être dans une région qui a beaucoup d'atouts. Est-ce qu'on est capable de s'arrêter et de prendre conscience de cette chance-là?
S'engager pour le bien commun, vous en êtes l'auteur, Philippe Royer. En lisant votre ouvrage, deux notions me sont venues à l'esprit, entre autorité et pouvoir. Quelle distinction faites-vous?
Alors, c'est deux gros sujets. Il faut exercer le pouvoir comme un service. Le vrai pouvoir, c'est de servir.
C'est le sens du mot ministère, d'ailleurs.
C'est le sens du mot ministère, effectivement. Il y a quelque chose de la diaconie, enfin, il y a quelque chose du service. Donc, l'enjeu, quand on va retrouver le fait que le sens est de servir, j'ai été, moi, président des EDC au niveau national pendant 4 ans.
EDC,
entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et dans ce mouvement-là, j'ai dit, vous savez, on doit réconcilier et vivre deux choses en même temps. Le fait d'être leader de leader, il faut oser justement exercer ce pouvoir qui nous est donné, prendre nos responsabilités, créer des emplois, nourrir des familles. Il faut retrouver cette gratuité, il faut retrouver cette joie de donner. Quand on a de la chance d'être du bon côté, on accumule nos biens et on est tétanisé par notre peur de partager. Et alors que quand on donne, on trouve la joie de donner. Moi, je dis aux gens, quittez la peur de partager et trouvez la joie de donner. Et si vous faites ce geste-là et que vous regardez ce visage lumineux que vous aurez en face, là, ça sera une belle journée et vous aurez de quoi vous émerveiller. C'est peut-être la chose dont vous serez le plus fier.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces agriculteurs qui vous écoutent ce matin, qui parfois ne vivent pas dignement du travail que ces personnes peuvent faire? Et le plus terrible, c'est qu'il arrive que ces agriculteurs ou agricultrices arrivent à mettre un terme à leur vie par un suicide.
On est dans un secteur où effectivement, il y a à la fois la question de la rémunération, il y a une autre question qui est la question de la charge de travail. Les fermes ont tendance à être de plus en plus grandes, avec pas forcément plus de main-d'œuvre. Donc, à un moment, ce qui conduit au suicide, bien sûr, il y a le revenu, hein, quand les choses ne vont pas bien et qu'on a des dettes, ça peut conduire au suicide, mais il y a aussi l'épuisement. On est dans une société qui conduit toujours plus, qui conduit à l'épuisement. Je dis aux gens, faites attention de ne pas vous faire happer par le toujours plus. L'enjeu, c'est le toujours mieux. Et je connais bien, parce que ma famille est dans le secteur de l'agriculture, une vie, c'est vivre dignement au présent pour pouvoir partager justement cette dignité avec d'autres et être acteur là où on est.
Je pense que vous pourriez être d'accord avec Elena Lassida, qui a écrit un très beau livre chez Albin Michel, Le goût de l'autre, qui dit moins de bien, plus de lien.
Oui, c'est le lien est forcément, quand je disais qu'à la fin d'une vie, le plus important serait la gratuité, derrière sa gratuité, on le trouve dans le lien. C'est le lien, et j'y rajouterais, c'est l'amour. Hein.
Dernière question avec vous. Pensez-vous, avec le patriarche orthodoxe de Constantinople, Athénagoras, que la guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même? Vous avez une minute.
Je ne suis pas naïf. J'ai dirigé des entreprises où j'ai utilisé le développement du matérialisme, mais l'argent est un moyen par rapport à ça. Et ce que dit le patriarche Athénagoras, qui est très fort aussi, c'est qu'il a arrêté le combat qui a été le plus dur pour lui, ça a été d'arrêter la comparaison. Et on dit souvent comparaison égale poison. Donc quand on a des gens qui vont bien à côté de chez nous, réjouissons-nous qu'ils aillent bien. Et quand on a des gens qui vont pas bien, simplement allons les aider. Parce que ce n'est pas dans la comparaison du toujours plus à l'autre qu'on peut trouver sa fécondité. Et donc c'est dans ce chemin d'ascèse, c'est un chemin d'émergence, c'est un chemin de fécondité, et c'est un chemin de vie, et c'est un chemin de vie éternelle.
Merci beaucoup Philippe Royer pour cet encore à Tendance Ouest. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions L'Emmanuel, S'engager pour le bien commun.